écoutez le Libre Journal des Amitiés Françaises, dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, dimanche 5 mars 2023 de 18h à 21h et réalisé par Stéphane. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir, très heureux de vous retrouver en ce dimanche soir pour 3 heures d'émission en direct. Nous recevons tout d'abord jusqu'à 19h30 le professeur René Aucochard, qui est professeur d'épidémiologie, chercheur en biologie à l'occasion d'une encyclopédie qu'il vient de copublier aux éditions Pierre Tecky, l'encyclopédie sur la sexualité humaine, l'amour et la fécondité. Ce sera bien entendu cette encyclopédie qui sera le thème de notre première émission intitulée « L'encyclopédie de l'amour et de la fécondité ». En deuxième partie, nous avons le plaisir de recevoir Dominique Lebrun, qui est écrivain de marine, à l'occasion de la publication de son livre aux éditions Vibert, « L'épopée des Vikings, 793-1066, 3 siècles ». D'histoire viking pour l'éternité. Et donc le titre de l'émission, c'est l'histoire des Vikings de Kiev à Hastings. Nous abordons maintenant la première partie de cette émission. Nous avions eu le plaisir de recevoir le professeur René Aucochard en décembre 2022 pour son livre aux éditions Artege, Homme-femme, ce que nous disent les neurosciences. C'est un livre qui met à mal ces dernières théories du genre. Dans ce livre, il décrit scientifiquement l'influence de la biologie sur la construction des personnalités féminines et masculines. Le sexe biologique est ainsi le fondement de la personnalité de l'homme et de la femme. C'est ce que nous révèlent les neurosciences qui démontrent qu'il existe une vraie similitude entre le cerveau de l'homme et de la femme. Il existe aussi de grandes différences et ces différences, elles se construisent dès la conception jusqu'à l'âge adulte. Ça avait été donc le thème de cette première émission en décembre 2022. Et le professeur Aucochard vient de publier, de copublier, parce qu'il y a de très nombreux intervenants dans cette encyclopédie. Il a copublié ça avec un prêtre et puis un autre médecin qui est aussi, je crois, son épouse. C'est ce que j'en ai déduit, hein, Isabelle Aucochard.
Tout à fait, oui, c'est Isabelle, mon épouse.
Et donc le titre de cette encyclopédie, qui est une encyclopédie extrêmement complète, hein, c'est l'encyclopédie sur la sexualité humaine, l'amour et la fécondité, qui est, c'est ainsi qu'elle est présentée par les éditions Tecky, la version française d'une publication équivalente à Rome, qui a été publiée donc par l'Institut Pontifical Théologique Jean-Paul II pour les sciences du mariage et de la famille. Et c'est lors de cette émission que nous avions réalisée ensemble sur le genre, qu'est venue donc l'idée d'une émission sur cette véritable somme qui fait l'état des connaissances sur la biologie, la psychologie, la médecine et sur la théologie du corps que nous ont légué Saint Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François. C'est une encyclopédie très très complète, il y a quasiment 900 pages, nous allons bien entendu en parler. Cette encyclopédie regroupe aussi tous les travaux en sciences humaines ou en philosophie. Et c'est en fait un outil exceptionnel pour toute personne qui étudie l'être humain, ce livre répond aussi. C'est l'un de ses grands intérêts, d'ailleurs, et notre invité ce soir est un spécialiste de ce domaine, donc nous aborderons avec lui plus particulièrement ces sujets. Ce livre répond à de nombreuses questions sur la fertilité et la famille. C'est une ressource indispensable pour tous ceux qui voudraient mieux connaître l'enseignement de l'Église sur la vérité de l'amour et la dignité de la sexualité. Alors pour évoquer cette somme, bien entendu, nous recevons le professeur Écochard qui a co-publié et écrit un certain nombre d'entrées de livres. Il a co-publié donc cette encyclopédie avec un prêtre qui est José Noriega, qui est professeur de théologie morale et puis un spécialiste d'éthique philosophique. Il a été le père Noriega, vice-président et directeur de la rédaction à l'Institut théologique pontifical Jean-Paul II de Rome. Isabelle Écochard, qui est médecin, spécialisée dans la planification familiale naturelle, c'est un thème qui est aussi beaucoup développé dans cette encyclopédie, qui est consultante du CLER et de la Fédération africaine d'action familiale, et René Écochard, bien entendu, que nous recevons ce soir, qui est professeur, qui est médecin, professeur d'épidémiologie à l'Université Claude Bernard de Lyon, qui est aussi chercheur en biologie de la reproduction et en écologie humaine. Il y a bien sûr aussi 157 auteurs du monde entier, des experts de leur domaine qui sont intervenus dans cette encyclopédie aux 191 entrées différentes. Professeur Écochard, bonsoir.
Bonsoir Thierry.
Eh bien, c'est avec grand plaisir que nous recevons à nouveau en direct dans le studio. Vous venez de loin et nous sommes très reconnaissants que vous soyez donné la peine d'être présent.
Oui, mais
dans le studio.
Ça vaut la peine. Je suis très enthousiaste concernant cette encyclopédie et j'avais beaucoup apprécié notre dialogue en décembre. Donc je me suis dit qu'en étant face à face, nous pourrions mieux donner aux auditeurs l'idée de ce qu'est vraiment cette somme, comme vous l'avez dit.
Alors nous allons bien sûr en parler si vous le voulez bien. J'aimerais revenir à votre livre précédent. Un précédent, votre livre pour lequel nous avions réalisé cette précédente émission « Hommes-femmes, ce que nous disent les neurosciences dans ce livre, en quelque sorte, comme je l'ai rappelé dans l'introduction. Eh bien, la biologie se manifeste dès la conception et différencie, même s'il y a bien sûr beaucoup de points communs, différencie physiquement, nerveusement, et puis jusque dans le cerveau, l'homme de la femme, ce qui est contesté d'une manière, alors là pour le coup pas du tout scientifique, par cette fameuse théorie du genre qui dit que le genre c'est qu'une question d'ordre social, les parents choisissent, la société choisit et affecte un genre à l'enfant et après il doit vivre avec ça. Et vous contredisez bien sûr de manière très scientifique cette théorie qui paraît vraiment absurde, surréaliste, pas du tout branchée sur la réalité. Alors je voulais qu'on, si vous le voulez bien, qu'on commence par cela, parce que il y a un article assez exceptionnel qui est paru récemment dans le Figaro, le Figaro du samedi 25 et dimanche 26 février. C'est un entretien dont le titre est « Ce que l'observation des primates nous dit de la différence des sexes ». C'est très intéressant parce que la personne qui est interrogée, c'est Frans De Waal, qui est un primatologue américano-néerlandais de renommée mondiale. Il vient de publier un livre qui s'intitule « Différents ». Il précise d'ailleurs que l'observation qu'il a faite donc des primates, des grands singes, est intéressante aussi pour les hommes, et parlante pour les hommes, parce que nous partageons avec les primates 98,5% de gènes. 98% de gènes en commun. Alors, vous allez nous préciser, professeur Écochard, si c'est beaucoup ou pas. Mais ce qui est incroyable, c'est que je vous laissais, vous avez lu cet article et je vous laissais bien sûr le commander. Mais c'est que la théorie du genre, chez les primates, ça passe pas. Hein.
Non, ça passe pas du tout.
Alors,
non.
Je vous laisse commenter cet article.
Oui, cet article.
Par rapport justement à votre livre.
Absolument. Cet article m'a réjoui. C'est vous, Thierry, qui me l'avez envoyé. Et je l'ai immédiatement lu avec vraiment un enthousiasme, car France de Waal est connue, comme vous l'avez dit, dans le monde entier. Si vous regardez sur, par exemple, Wikipédia, ce qu'il a publié, vous verrez qu'il n'est pas né de la dernière pluie. Il a travaillé toute sa vie et il est reconnu par ses pairs comme un homme dont on peut se fier. Et en effet, il a montré, il a analysé, lui, objectivement, chez les primates, en somme, est-ce que un corps différent, mâle ou femelle, correspond à un psychisme différent, masculin ou féminin, et mâle ou femelle. Et déjà, c'est le premier point, il a constaté qu'il n'y a aucun problème. Les primates, comme nous, il y a clairement des cerveaux qui sont adaptés à notre corps. Sous-entendu, on n'est pas seulement un corps d'homme ou de femme et un esprit non différencié, pas du tout. Nous avons un corps et un cerveau qui convient. Et ça, en fait, c'est chez tous les mammifères, vous savez. Et il le décrit très très bien, lui. Il décrit, lorsqu'on met à des primates des poupées, les primates femelles s'en occupent immédiatement, les mettent sur le dos comme pour les porter comme elles le font des bébés, alors que les mâles les démontent pour voir comment ils sont fabriqués, ce qui ressemble vraiment à la
Playmobil, quoi.
Voilà, c'est vraiment ça nous rappelle nos petits-enfants qui démontent les objets ou qui transforment la boîte en tracteur en mettant une ficelle, tout à fait une attitude masculine. Mais c'est vrai de tous les mammifères. On le voit chez les petits chats aussi, des expériences ont été faites. En effet, c'est tellement nécessaire qu'il y ait cette aptitude particulière de la femelle, et pour nous, de la femme, à l'empathie. C'est tellement nécessaire pour la survie du petit qu'il n'y a aucun doute. Les aptitudes spécifiques d'empathie de la femme, c'est une richesse pour la survie de tous les mammifères. Mais l'homme, lui, et le mâle chez les mammifères, a besoin d'autres aptitudes. En effet, si on veut que l'enfant se développe, il faut qu'aux côtés de la femme, il y ait l'homme. Et que lui ait des aptitudes qui ne sont pas les mêmes. Sous-entendu, c'est pas simplement qu'on va diviser le temps en deux. Tu t'occupes d'un biberon sur deux, tu fais une couche sur deux. Moi, je m'occuperai de l'autre, pas du tout. Enfin, on peut le décider comme ça, c'est pas un souci. Mais de fait, on a des capacités spécifiques pour enrichir notre foyer, de la même manière que dans les familles, les groupes familiaux des autres mammifères, les mâles ont aussi quelque chose de nécessaire à apporter. J'ai beaucoup observé ce qui se passe chez le lion et la lionne. Vous voyez, la lionne, c'est elle qui a le corps et le cerveau pour chasser, pour courir après la gazelle. Elle a ce désir de chasser. Alors même que ce n'est pas que pour elle, parce que ce qu'elle a comme proie servira à ses petits, au mâle qui voudra avoir un bon morceau, et enfin à elle. Et donc, elle a cette aptitude. Par contre, le mâle, lui, est tout à fait trop pâteau, trop gros, trop baraqué, si j'ose dire, pour courir après une gazelle. Mais par contre, s'il y a un autre mâle qui vient agresser, il a ce qu'il faut pour défendre. Et je relisais dans l'encyclopédie les thèmes concernant le genre. Il y a plusieurs chapitres sur ce sujet. Et on y trouve ces différences fondamentales. C'est-à-dire qu'en fait, hommes et femmes, nous avons une complémentarité. Et les hommes, nous avons un grand nombre d'inclinations et d'aptitudes qui sont bonnes pour le groupe. Vous voyez, nos différences ne sont pas faites pour nous. Elles sont faites pour nous, bien sûr, mais surtout pour nous permettre de protéger la vie, que ce soit la vie au sein de la famille ou dans la société.
Alors, ce qui rend, au-delà des mammifères, et notamment vous parlez des lions, là, ce qui rend l'article et la comparaison particulièrement parlante pour nous, c'est que nous partageons tant de gènes en commun avec les primates, 98,5% de gènes communs. Donc c'est très proche, et c'est de voir l'exemple des poupées. On laisse traîner des poupées, ce sont les femelles singes
qui s'en occupent.
Qui s'en occupent, et, oui. et le Franz de Waals, il va encore plus loin. Il dit quand il n'y a pas de poupées, elles se créent leurs poupées.
Oui, elles trouvent des objets.
Elles trouvent
dans
des objets qui ressemblent. Et bien, elles se les mettent sur les dos, elles les prennent dans les bois.
C'est, c'est assez extraordinaire. Toutes petites, même. Hein, ça ne sont pas simplement des mamans. C'est des petits, oui, tout à fait. Même isolées de leur maman, qui n'ont pas connu leur maman, eh bien, elles ont ceci parce que c'est en nous. C'est donné à la naissance, c'est donné in utero. En fait, ces dons spécifiques.
Et il parle des mâles qui s'occupent très peu des enfants, des mâles donc singes, très peu, mais qui ont un rôle protecteur. Le rôle est avant tout un rôle protecteur.
Tout à fait. C'est, nous, l'espèce humaine, nous faisons partie des 5% de mammifères qui nous occupons de nos petits. Mais par contre, chez les autres mammifères, le mâle, la plupart du temps, défend le groupe social. Et donc, en fait, vous avez bien dit 98,5%. Nous avons en effet des différences de génome très importantes. Et notamment, sur le chromosome Y, vous savez, celui qui est de notre masculinité, nous avons un acquis qui n'existe pas, même chez le chimpanzé, qui est notre plus proche cousin. C'est qu'en fait, le créateur nous a donné un enrichissement particulier sur le chromosome Y, peut-être, on ne sait pas encore, est-ce celui qui fait qu'on s'occupe de nos enfants. C'est-à-dire, on a une biologie faite pour être disponible pour nous occuper de nos enfants.
Le titre du livre pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui se l'intéresseraient, il s'appelle « Différent, le genre vu par un primatologue ». C'est Franz de Waals, l'auteur aux éditions des Liens. Il faudrait l'envoyer à Sandrine Rousseau, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, et puis à tous les promoteurs de cette théorie genre.
Ce sont des vieilles théories, et dans l'encyclopédie, il y a un chapitre qui a été écrit par une neuroscientifique espagnole qui montre, Natalia, je connais son prénom, je ne trouve plus son nom de famille, et c'est vraiment une spécialiste, et en fait, ce que l'on constate, c'est qu'en fait, toutes ces théories qui traînent datent des années 1970. Elles ne sont pas actuelles. Les neurosciences datent surtout des 20 à 30 dernières années. Et je ne sais pas pourquoi on s'attarde sur des choses qui sont des idées avant que naissent les neurosciences. Et vous savez, les neurosciences, jusqu'à maintenant, si nous voulions savoir qui nous sommes, nous faisions de l'introspection. Nous méditions, ou alors nous faisions de la sociologie. Nous regardons comment les autres vivent et nous méditons comment nous sommes. Et avec les neurosciences, il y a une tierce personne, c'est-à-dire la science peut regarder ce qui se passe en nous grâce à l'imagerie cérébrale, aux dosages hormonaux, etc. Et donc c'est vraiment novateur parce que nous avons maintenant un accès, un troisième accès, si j'ose dire, pour connaître ce qui se passe en nous.
Mais professeur Écochard, je crois que j'ai dû vous poser cette question d'ailleurs lors de notre premier entretien. Vous nous rappelez que cette théorie du genre date des années 70 à peu près, qu'elle n'a aucun fondement scientifique, que depuis cette époque, au contraire, les sciences, notamment les neurosciences, l'imagerie, se sont développées d'une manière considérable et détruisent complètement cette théorie du genre. Comment expliquer le succès actuel de cette idéologie? Ça n'est qu'une idéologie, mais comment expliquer ce succès? C'est incompréhensible. Quand on lit cet article sur les anges, quand on lit votre livre que vous avez donc, pour lequel vous avez reçu Homme-femme, ce que nous disent les neurosciences, quand on lit aussi votre encyclopédie pour lequel nous vous recevons maintenant, publiée chez Pierre Tecky, encyclopédie sur la sexualité humaine, l'amour et la fécondité, qui contredisent complètement cette théologie. Comment comprendre cela? Pourquoi?
Dans le fond, ça nous ramène bien à pourquoi cette encyclopédie a été écrite.
Vous avez raison de nous ramener au sujet principal.
Non, c'est une réponse en fait. C'est-à-dire qu'en fait, devant l'impression de... Nous avions l'impression d'une inondation. C'est-à-dire une sorte de tsunami qui progressivement se déversait et liquéfiait l'amour, en fait, le dissolvait. Et nous, nous étions en réunion à Rome. On avait été convoqués par le professeur Mélina, Livio Mélina, nous avait convoqués, nous a dit « Il faut qu'on réfléchisse. Comment est-ce qu'on pourrait servir nos frères humains aujourd'hui de manière à ce qu'ils ne soient pas noyés par ce relativisme sur l'être partant des idéologies des années 40, 50, 60, 70. Hein. Et donc, comment faire pour que les gens ne repartent pas à zéro comme si rien n'était fait? Et donc, c'est ensemble le groupe là-bas qui a décidé de faire appel aux auteurs les plus compétents qui avaient travaillé au cours des 30 dernières années pour donner des éléments de philosophie réaliste, d'une théologie basée sur le réel et de science. Donc on a vraiment décidé que dans un même document, il y aurait la science, la philosophie réaliste, la théologie et aussi parole donnée aux opposants, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va avoir, au cours des siècles, le problème s'est posé très souvent, hein, et donc on a au cours des siècles eu des hérésies anthropologiques. C'est des hérésies sur une erreur de compréhension de qui nous sommes. Et donc nous sommes dans un monde d'hérésie. Et on le sait, quand il y a une hérésie, eh bien elle plaît. Au cours des siècles, les hérésies ont plu et ont été, c'est douloureux, ça fait souffrir, mais c'est toujours l'occasion d'un chemin en avant. C'est-à-dire que nous avons l'opportunité aujourd'hui En s'enrichant, grâce à la difficulté, nous sommes comme fouettés et désireux de nous enrichir en connaissant le réel. Et donc, vraiment, ces 190 articles demandés donc à ces 157 auteurs, c'est sur chaque thème, si vous voulez, demandons ce qu'il en est aujourd'hui de la connaissance pour ne pas être inondé de choses de peu de valeur, comme on l'est par exemple par la théorie du genre.
Alors, nous allons parler, bien sûr, de votre encyclopédie, de tout ce qu'elle couvre. Elle couvre la théorie du genre, mais elle couvre bien d'autres choses. Oui. Vous avez précisé qu'elle fait le point sur les connaissances scientifiques, mais elle nous rappelle ce que dit l'Église en matière d'amour et de fécondité et de sexualité. Elle fait donc le point de ce que dit l'Église, elle fait le point des recherches scientifiques. Donc c'est une encyclopédie qui traite des sujets très variés, dont certains sont un peu explosif. Le point de départ, alors, pardonnez-moi de revenir en arrière, c'est l'introduction de votre livre. Le point de départ auquel vous faites référence, c'est le 25 juillet 1968. Là, il s'agit aussi d'un... Il fait un grand courage, j'imagine, pour publier cette encyclique « Humanae Vitae » de Paul VI, en plein mai 68, hein, en pleine période de mai 68, Humanae Vitae, que vous qualifiez de texte prophétique qui est pourtant à contre-courant de tout ce qui est en train de se produire. Et donc, je vais vous demander de nous expliquer, effectivement, vous avez parlé du point de départ, mais plus précisément, pourquoi vous avez publié cette encyclopédie, comment l'idée en est venue, et cette encyclopédie est-elle... Ça n'est pas une traduction de l'encyclopédie qui a déjà été publiée, que je mentionnais en introduction à Rome par l'Institut pontifical théologique de Jean-Paul II. C'est le pendant français, mais avec vos propres travaux.
C'est vraiment la traduction française.
C'est la traduction française.
Absolument, du livre qui est... Donc, il a été publié en italien.
Oui.
Ensuite, il a été publié en espagnol. Maintenant, en français, il est en train d'être publié en coréen et la traduction en anglais est en cours de préparation. Je pense qu'on en est à 40%. Et donc, c'est vraiment la traduction fidèle de l'encyclique de l'Institut Jean-Paul II.
Mais cette encyclique, vous...
Excusez-moi, de l'encyclique, de l'encyclopédie.
Oui, pardonnez-moi. L'encyclopédie, donc, sur la sexualité humaine, et l'amour et la fécondité, vous en êtes à l'origine. Dans sa version déjà italienne, dans
voilà,
sa version
oui, tout à fait.
Romaine, c'est la même, c'est le même document.
Absolument.
Voilà.
Absolument.
Donc avec le père Noriega, votre épouse Isabelle Ecocha et voilà. Vous-même professeur.
Disons que le travail nous a été confié, vous savez ce que c'est. L'Institut avait besoin d'artisans pour faire le travail. Le père Noriega, connaissait des philosophes, des théologiens du monde entier de première main, et nous, nous connaissions les scientifiques et les gens de terrain. Donc on s'est réparti les tâches. José a contacté tous ses amis spécialistes du monde entier, des 5 continents, et puis nous avons contacté, nous, les spécialistes scientifiques ou les gens de terrain. Oui, en effet, une des fantaisies très grandes de cette encyclopédie, c'est qu'il y a la dimension historique, c'est-à-dire la sexualité au cours des 40 dernières années, comment a-t-elle évolué et comment les gens qui ont voulu enseigner annoncer l'enseignement de l'Église, comment est-ce qu'ils s'y sont pris et comment ont-ils été accueillis. Et donc, en fait, c'est pour cela que, vous voyez, nous qui ne sommes, Isabelle et moi, pas théologiens, nous avons eu comme mission d'apporter la science et tout le vécu de ces 50 dernières années.
C'est un travail impressionnant que vous avez produit. C'est une encyclopédie extrêmement complète. Il y a à peu près 200 entrées, 900 pages. À quel moment cette idée vous a été proposée?
Donc, en 2018. Hein, en 2018, comme je vous le disais, on était convoqué chez le professeur Mélina. Il y avait là donc les professeurs de l'Institut, tous les professeurs de l'Institut. Et puis, on a médité, que doit-on faire pour rendre accessible?
Mais c'est une initiative suggérée par une autre autorité dans l'Église ou c'est venu, c'est l'Institut?
Je pense que c'est l'Institut, parce que l'Institut, si vous voulez, a été créé par Jean-Paul II pour travailler, pour méditer sur l'actualisation de la compréhension de la vie sexuelle, si vous voulez. On peut vraiment dire que Vatican II a ouvert un nouveau temps de réflexion sur la dimension humaine et divine de la sexualité humaine. Hein, il est écrit dans Gaudium et Spes, dans Vatican II, que la sexualité a une dimension humaine et divine. C'est provocateur, ça, parce que dans le commun des habitudes, on peut dire peut-être que la sexualité, il y a quelque chose d'éthique. Mais en quoi est-ce tellement fondamentalement humain et divin? Là encore plus. Donc, vous voyez qu'on a ouvert là un champ extraordinaire et qui a été donc vécu par un grand nombre de couples, mais aussi réfléchi par un grand nombre de philosophes, de théologiens. Et ça a conduit à beaucoup de travaux scientifiques. Vous voyez, moi, je pars la semaine prochaine à Lisbonne à un congrès international. Il y aura des gens du monde entier, mais des scientifiques qui travaillent sur le même sujet, soit pour aider les couples à espacer les naissances, soit pour aider les couples stériles. Et donc, on se rencontre, car c'est le même travail des scientifiques de réfléchir sur la fécondité, c'est le troisième mot de ce livre, l'amour et la sexualité.
Pour que nous comprenions bien et que les auditeurs de Radio Courtoisie comprennent bien l'objet et tous les domaines qui sont traités par cette encyclopédie, pouvez-vous nous donner quelques exemples des thèmes principaux?
Ah, très bien.
Par thèmes principaux.
Oui, hein, très bien.
C'est ceux que vous abordez. Et puis après, je vous poserai la question récurrente. À qui destinez-vous cette
très
encyclopédie
bien.
Est-ce qu'elle est faite justement pour des couples qui veulent espacer leur naissance,
voilà,
ou des couples qui sont en désir d'enfant et malheureusement... Voilà. À qui destinez-vous
très bien
cette encyclopédie? Alors, on commence par les domaines d'études avec quelques thèmes bien représentatifs.
Bien représentatifs. Hein. Bah, disons que le cœur, en si j'ose dire, du sujet, c'est quand même humanévité. Et donc, il y a sept
entrées. Humanévité, c'était une bombe à l'époque.
C'est la vie humaine, le titre, c'est vie humaine. La question, c'est, est-ce que le dessein de Dieu est d'unir amour et transmission de la vie, ou bien est-ce que, en enlevant la transmission de la vie, c'est pas la contraception, on risque de blesser l'amour, voyez? Est-ce que En enlevant le pouvoir fécondant d'une union intime, va-t-on blesser l'amour? C'est l'avis de Paul VI et c'est l'avis de tous les auteurs qui ont présenté ce sujet dans le livre. Ou est-ce que, non, c'est pas grave, on peut modifier l'union intime? Ça, c'est un thème très important. Et le lecteur va sûrement chercher et lire. Voyez, c'est, on a des thèmes donc, sur l'humanité, par exemple, magistère postérieur, c'est-à-dire comment après humanévité, on a eu envie éventuellement soit de confirmer humanévité, soit de le remettre en cause. On laisse entendre que le pape François aurait envie de remettre en cause humanévité. C'est absolument pas le cas parce que dans Amoris Laetitia, il a deux chapitres majeurs, le chapitre 4 et le chapitre 5. Le chapitre 4, c'est sur l'amour. Le chapitre 5, c'est sur la vie. Et il dit que la vie est déjà là dès le début de l'amour. Et que c'est très très important. Ce lien entre amour et vie est en fait le cœur même de la création. Donc ça méritait bien ces quelques chapitres, on pourra revenir plus loin. Mais donc il y a vraiment des chapitres très importants. La deuxième chose après, c'est le masculin-féminin. Parce que qui dit sexualité, dit masculin-féminin. Donc nous avons tous les articles sur le masculin et le féminin, mais aussi ceux que pose la question du genre, de l'homosexualité, de l'homoparentalité. Donc chaque élément est traité, que ce soit par l'homosexualité, la question morale, ou des choses comme l'homosexualité et la normalité, ou les lois. C'est toute la réflexion de ces lois qui changent tout le temps. On est étonné, tous les 2-3 ans, il paraît qu'il faut revoir les... On nous dit de revoir les lois. Donc on panique, n'est-ce pas? On ne sait plus. On se dit, mais ce qui était mal hier devient le bien, et ce qui était le bien devient le mal. On s'inquiète. Là, il y a des auteurs spécialistes qui nous montrent que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est qu'en fait, il y a un fondement de ces démarches, et en somme, on nous montre dans ces articles sur la loi, ils sont très intéressants, comment ces lois sont modifiées, pourquoi, et en quoi, en effet, elles risquent de blesser l'homme gravement, et de blesser les personnes, hein, et en quoi elles sont structurantes ou pas. Hein, voyez. Donc, c'est le masculin et le féminin, et tout ce qui tourne autour. Mais il y a aussi l'enfant. L'enfant, c'est-à-dire que un enfant qui naît, eh bien, c'est déjà l'embryon, le statut de l'embryon, Qui est l'embryon? Est-il une personne? Toute cette réflexion. Et donc, tout le problème de l'avortement est médité. Le problème de l'avortement, mais le problème de qu'est-ce qui se passe dans le ventre de la maman? Qu'est-ce qui se passe pour un nouveau-né? Et puis, bien entendu, l'accompagnement de la maman. Et donc, j'ai la joie d'avoir fait cet article sur l'allaitement et la fécondité, donc l'accueil de l'enfant. Qu'est-ce qui se passe? C'est absolument merveilleux. C'est-à-dire que lorsque la maman accueille un enfant, eh bien, ce qui se passe en eux est absolument merveilleux. Vous le savez peut-être, mais quand le bébé tète, il fait sécréter en sa maman, deux hormones, l'ocytocine qui fait éjecter le lait et la prolactine qui fait préparer le lait de la prochaine tétée. Eh bien, ces mêmes hormones sont les hormones de l'attachement et du prendre soin. C'est-à-dire que quand la maman est tétée, si j'ose dire, elle est aidée à s'attacher à son petit. Et elle est aidée à avoir envie de prendre soin de lui. Vous voyez, donc toutes ces choses-là sont expliquées dans ce document, vous voyez, dans ce livre. Et puis, on a besoin de parler avec les gens qui ne pensent pas comme nous, hein, n'est-ce pas? Et donc, il y aura un chapitre, par exemple, sur Freud, il y aura des chapitres sur les bouddhistes, des chapitres sur, voyez, toute leur religion et la sexualité, ou des intellectuels importants pour notre société, Lévinas, Lévi-Strauss, etc. Vous voyez, donc, en fait, tous ces chapitres qui visent à entrer en dialogue, parce que ce livre est fait pour rentrer en dialogue. Bien sûr, les chrétiens y trouveront beaucoup de matière, mais les non-chrétiens gagneront beaucoup à lire ce livre. Ils auront en deux pages, par exemple, le bilan sur Aristote et la sexualité, par exemple. C'est énorme, donc vous voyez, c'est très important. Et donc... ainsi, donc, entrant en dialogue, et puis aussi, ben, quand même, le réel, c'est l'histoire des gens qui, dans les paroisses, dans les cinq continents, dans les paroisses, il y a des gens qui font de la préparation au mariage. Hein, et donc, il fallait donner ce qui se passe dans les paroisses. Donc, nous avons des amis dans les 5 continents. Par exemple, je vous donne un exemple. Aux États-Unis, il y a des bureaux. Il y a dans chaque diocèse quelqu'un qui est missionné pour la question de la sexualité. Et donc, les laïcs peuvent faire appel à ces services. Et donc, moi, je connais très bien la responsable aux États-Unis de cela. Je lui ai demandé de nous décrire toute la pédagogie, la pastorale conjugale sur le plan de la sexualité. Vous voyez un petit peu. Et puis, comme avec Isabelle, nous avons le cœur en Afrique, eh bien, il y a pas mal d'auteurs africains qui ont pu dire comment, chez eux, la pastorale familiale annonce la splendeur de l'enseignement de l'Église sur la sexualité. Voilà, vous voyez à peu près quelques chapitres.
Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qui vous écoutent que nous avons le plaisir de recevoir le professeur René Aucochard à l'occasion de la publication de cette très complète encyclopédie sur la sexualité humaine, l'amour et la fécondité, qui publication en français, donc qui fait suite à la première publication en italien par l'Institut Pontifical Théologique Jean-Paul II, hein, c'est qui est à l'origine,
oui, tout à
de
fait.
La demande, hein, il faut le, oui, préciser, oui, à l'origine de la création de cette encyclopédie très complète. Hein, nous avons entendu le professeur Aucochard énumérer un certain nombre de thèmes avec quelques exemples. La question que j'aimerais vous poser, professeur Aucochard, c'est: à qui destinez-vous cette encyclopédie?
Oui, c'est bien de clarifier ça, parce que c'est un achat. Hein, donc est-ce qu'on se lance ou on ne se lance pas? Et je dirais, voyez, regardez, pensez au dictionnaire. Aujourd'hui, nous avons un dictionnaire sur Internet, mais dans toutes nos familles, il y avait des dictionnaires. Hein, il y a des dictionnaires. Bon, on est à table. On est à table. Moi, je me rappelle, avec les enfants, on était à table et on se mettait à parler de quelque chose. Eh bien, à un moment, le père de famille dit « Et si on regardait dans le dictionnaire ?» Et à ce moment-là, on trouvait des références solides pour continuer la conversation. Je pense que déjà, la première chose de ce livre est faite pour des familles chrétiennes qui ont envie de structurer l'enseignement de leurs enfants sur le sujet et qui veulent être sûrs de ne pas amoindrir l'enseignement de l'Église. Les pastorales familiales dans les diocèses, c'est absolument essentiel qu'ils puissent s'approprier et ne pas avoir besoin de retourner dans des documents romains chaque fois qu'ils veulent aborder, parce qu'ils pourraient s'y noyer, vous voyez. Ou je pense par exemple à la question de l'homosexualité. Pour avoir les mots justes sur ce sujet, de manière à ce qu'il y ait bien l'accueil de l'autre, mais le réel sur ce que vit l'autre, voyez, toutes ces choses-là. Donc en somme, je disais, les familles qui souhaitent disposer de la substantifique moelle de l'enseignement de ce que le Créateur a voulu pour nous, les pastorales familiales, mais aussi, vous le savez parce que vous l'avez feuilleté, il y a des chapitres qui sont vraiment faits pour des séminaires ou voire des théologiens ou des philosophes. Regardez, il y a de plus en plus de jeunes, notamment des jeunes femmes, qui prennent la peine de faire des études de théologie. Hein, on a de plus en plus de théologiennes, si j'ose dire. Hein. Eh bien là, elles trouveront la substantifique moelle pour bâtir leur mémoire personnelle ou sur le sujet. Et donc, ça, c'est très important. Et donc, vous voyez, c'est tout à la fois, il me semble, un livre de référence dans les familles, comme on avait autrefois le petit Robert ou je ne sais trop. Et puis, il y a tellement de matière, c'est plutôt une encyclopédie qu'un dictionnaire. Eh bien, l'encyclopédie va avoir sa place dans les rayons des bibliothèques, des séminaires et des pastorales familiales.
C'est à la fois l'explication de la théologie, oui, de l'Église, oui, mais aussi le point sur toutes les recherches scientifiques, et vous montrer que l'un ne contredit pas l'autre.
Oui, c'est ça, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a, je pense, une vingtaine d'articles scientifiques, Et par exemple, vous voyez, face à l'infertilité, par exemple, ben, qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est possible? Quelle est la méditation de l'Église? Mais qu'est-ce qui est possible concrètement, comme soin? Eh bien, donc,
nous allons parler, d'ailleurs.
Les responsables de la naprotechnologie, en particulier, ont eu la gentillesse d'écrire des chapitres dans le dictionnaire.
Nous allons en parler, parce que c'est aussi l'un de vos thèmes de prédilection, professeur.
Voilà, tout à fait.
Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie, d'ailleurs, que surtout, chers auditeurs, n'oubliez pas, n'hésitez pas, pardon, à poser vos questions par téléphone. Marie-Hélène est au standard. Elle sera ravie de les prendre. Hein, toutes les questions que vous pourriez vous poser et qui concernent le thème de l'émission de ce soir, qui est cette encyclopédie sur la sexualité humaine, l'amour et la fécondité. Toutes les questions importantes qui ne sont pas simples, hein, sur notamment la fécondité. Soit dans l'espacement des naissances, soit effectivement pour les couples qui ont des problèmes de fertilité. Ce sont des sujets difficiles que vous abordez en effet dans cette encyclopédie, professeur Ecochard. Nous allons bien entendu en parler. Vous avez sélectionné, je vous ai dit, mais quelles entrées souhaiteriez-vous aborder ce soir durant cette émission pour illustrer ce qu'est cette encyclopédie, où vous avez proposé un certain nombre d'entrées. Si vous voulez bien, je vous propose de les prendre en exemple.
Allez-y, je vous laisse me mettre à la question.
Mais sinon, alors, nous pouvons commencer par celle que vous voulez, mais vous avez la première d'entre elles que vous avez proposée. C'est celle qui correspond à l'entrée pédagogie du lien entre union et procréation. Ça nous ramène à l'encyclique, à humanité,
bien sûr, bien sûr.
Naturellement. Alors vous écrivez la personne qui écrit cette entrée dans l'encyclopédie, bien sûr,
voilà.
Ce à quoi vous souscrivez, puisque c'est à la fois un résumé des connaissances scientifiques à ce jour, et c'est une présentation de la position de l'Église à travers l'Institut pontifical théologique de Jean-Paul II, qui est en quelque sorte le parrain, hein, on peut le dire,
oui,
le parrain de cette encyclopédie, prestigieux parrain, professeur Ecochard. Alors, vous écrivez dans cette entrée qu'il est nécessaire de préserver le lien entre union et procréation. Cette affirmation du magistère de l'Église catholique est une pierre d'achoppement pour beaucoup et fait l'objet d'un ostracisme.
Oui, bien sûr, le fait que l'union intime soit pour les couples un grand moment dans l'union fait qu'on aimerait, si j'ose dire, ne pas se confronter au fait que chaque union peut transmettre la vie. C'est bien naturel de piaffer d'impatience, avoir envie de s'unir, parce que lorsqu'on s'aime, on a envie de s'unir, mais l'union des corps jaillit la vie. Et donc, on comprend bien que de tout temps, je pense, hein, les couples se soient posé la question, car ensemble, on ne peut pas accueillir tous les enfants que notre amour pourrait nous donner. Hein. Il est bien évident qu'il faut pouvoir espacer les naissances. Hein. Et donc, il faut une pédagogie. Et donc, en effet, il nous a été confié, à Isabelle et moi, d'écrire ce chapitre donc, sur la pédagogie, parce que ça a été notre vie pratique. Nous avons enseigné donc, les méthodes naturelles avec Isabelle toute notre vie. Donc la pédagogie, c'est vraiment notre problème, hein, notre sujet. Eh bien, nous avons beaucoup médité et je vais essayer de vous donner quelques éléments donc, du pourquoi garder unis. L'amour et la transmission de la vie. Je vais partir de la fin, si j'ose dire, du Créateur, hein, parce qu'on voudrait partir de la science, mais commençons déjà par le Créateur. Le Créateur est une communion d'amour. Comme le dit le pape François, c'est plus une famille, Dieu, qu'un être isolé. Dieu est une communion d'amour. Et la création, la terre, l'univers, et nous jaillissons de cet amour. C'est-à-dire que de l'amour trinitaire jaillit la création, jaillit la vie. Donc, par nature, en Dieu, de l'amour jaillit la vie. Hein, c'est donc, si je suis chrétien, j'admire, je médite face à cette réalité. Eh bien, quand il crée il crée la nature, que ce soit les animaux, les plantes, et bien sûr nous-mêmes, eh bien, nous reflétons l'amour trinitaire d'où jaillit la vie. C'est-à-dire que, en nous, si nous nous aimons, la vie jaillit. Et donc, quand de l'amour conjugal jaillit l'enfant, c'est vraiment de la communion conjugale que jaillit la vie des enfants à naître. Et donc, vous voyez que quand Dieu, nous sommes hommes et femmes, il les créa, à son image, il les créa, il nous créa féconds, car de l'amour de l'homme et de la femme jaillit l'enfant, de la même manière que de l'amour trinitaire jaillit toute la création. Donc, vous voyez, il y a une dimension d'emblée théologique, c'est un grand mystère. Le mystère dans la communion trinitaire d'où jaillit la création, eh bien, il donne que de l'union intime jaillisse l'enfant. Donc, déjà, la première chose, c'est ce qu'on appelle la piété, hein, c'est-à-dire cette attention à ne pas blesser la création. Et donc, Paul VI, après avoir écrit cette encyclique, il y a beaucoup d'années maintenant, en 68, accueille les sages-femmes. C'est-à-dire les femmes qui accompagnent les mamans, hein, et leur explique. Et dit quoi? Eh bien, il dit que Dieu, communion d'amour, a voulu que nous, couples, nous vivions une communion d'amour et nous participions à la création, et que donc il y a un lien intrinsèque entre la communion d'amour et la transmission de la vie. Et donc, ainsi, face à cela, il dit aux sages-femmes, vous voyez, il ne faut pas que nous blessions ce que nous donne Dieu. Si nous enlevions la vie artificiellement à l'amour, ce serait le risque de dénaturer l'amour. Donc c'est le point clé, c'est le risque de dénaturer. Et dans l'encyclopédie, on cite très souvent Ron Heimer, qui est un philosophe, il y a une entrée sur son travail, qui a médité sur cette chose-là, et en effet, c'est très essentiel. Bon, alors, deuxième chose, il faut parler, c'est de la pédagogie, n'est-ce pas? Regardons un peu en général. Eh bien, dans toutes les espèces, le lien qu'il y a entre mâle et femelle, ce lien qui fait qu'ils font famille, est celui dont naissent les enfants. Donc, en somme, si vous voulez, dans toute la nature, la filiation jaillit de l'alliance. C'est-à-dire que dans toute la nature, la vie jaillit de la communion fidèle. Et donc, c'est un autre regard qui montre que, en effet, si nous créons une sexualité qui est défait de la vie, vous voyez, une nouvelle sexualité dont on a enlevé, eh bien, ce n'est plus l'amour tel qu'il est créé. Donc, c'est du transhumanisme, en fait. C'est-à-dire qu'on risque de blesser la création. Vous voyez, donc, en somme, si vous voulez, ce n'est pas une question d'éthique, les méthodes naturelles. Ce n'est pas une question de simplement le bonheur de découvrir la beauté de la nature. Ce n'est pas simplement le respect de la femme. Tout ça est vrai. Mais c'est premièrement le fait de vouloir accueillir le don de Dieu qui est que de la communion d'amour jaillit la vie.
Alors, professeur Écochard, là vous vous placez dans une perspective religieuse.
Tout à fait.
Et là vous vous adressez à des chrétiens.
Je pense qu'il y a plusieurs croyants.
Il y a plus ou moins croyants, naturellement. Et la question c'est, votre encyclopédie, vous la destinez avant tout aux chrétiens.
Alors
question par rapport justement à ce lien, à cette pédagogie du lien entre union et procréation.
C'est-à-dire que l'encyclopédie, je pense, va principalement intéresser les chrétiens, les catholiques, mais aussi les protestants, les orthodoxes. Mais, si vous voulez, un grand nombre de chapitres intéressent toute personne. Moi, personnellement, j'ai enseigné à la faculté pendant un grand nombre d'années. Bon, et j'enseigne encore cette année en biologie de la reproduction. J'enseigne tous les ans en biologie de la reproduction. Eh bien, quand je décris à mes étudiants que de l'union intime jaillit la vie, personne ne rigole. Parce que c'est une pure réalité. Et donc, j'essaye de les aider à... c'est pas le centre de mon cours. Le centre de mon cours, c'est le cycle féminin. Hein, donc, tout à la fois... pour que l'importance du cycle féminin chez la femme, l'importance du cycle féminin pour la transition de la vie et l'importance du cycle féminin dans les situations d'hypofertilité. Ben, c'est un master d'hypofertilité, enfin de biologie de la reproduction. Eh bien, là, je ne parle pas du créateur, mais je parle de la création. Si vous regardez la création, dans toutes les créations, de l'amour jaillit la vie. Vous savez, mon épouse, un jour, on l'avait convoquée à la fac pour donner un cours sur la sexualité, un gynécologue. Et puis, elle a parlé très simplement, elle a parlé des choses biologiques, et elle a dit, vous voyez, l'amour des conjoints et les enfants naissent, vous voyez. Et à la fin du cours, le professeur en charge de l'enseignement est venu la remercier, lui a dit, écoutez, moi, je suis très heureux de vous avoir entendu, c'est la première fois que j'entends parler d'amour à l'université. Mais pourtant, l'amour est central, que nous soyons chrétiens ou pas, l'amour est central. Et donc, tout le monde a peur de blesser l'amour. Enfin, je veux dire, toute personne de bonne volonté a peur de blesser l'amour. Et donc, la question est bien là, en effet. Ne risque-t-on pas de blesser l'amour en inventant un amour qui ne transmet pas la vie, artificiellement, médicalement, voyez ? C'est-à-dire, mécaniquement ou avec des médicaments, des contraceptifs, on invente un nouvel amour qui ne transmet pas la vie. Vous vous rendez compte ? C'est énorme. Et en effet, on le voit, par exemple, le genre avait été annoncé. C'est que nous avons cité un auteur qui avait écrit en 1960, il ne faut surtout pas introduire la contraception. Si on le faisait, les couples seraient en grande difficulté, les familles nombreuses deviendraient des monstruosités, et même on aurait beaucoup de mal à expliquer pourquoi il ne faut pas que deux personnes de même sexe s'unissent s'ils s'aiment. Voyez ? Donc en fait, le fait de garder uni amour et transmission de la vie est une réalité anthropologique qui n'est pas spécifiquement chrétienne. Simplement, nous chrétiens avons une sorte de piété, sous-entendu de désir de respecter le créé, qui nous encourage à tenir. Mais les arguments sont principalement scientifiques, objectifs, c'est-à-dire tels que les choses sont.
Alors vos arguments sont certainement très, très recevables, très acceptables pour les chrétiens, les catholiques, naturellement. Oui. Certainement beaucoup plus difficile à faire valoir auprès de ceux qui ne le sont pas. Je lis un extrait de votre entrée, si vous voulez bien, professeur Cochard. Donc je rappelle l'entrée que vous nous présentez aux auditeurs de Radio Courtoisie, c'est la pédagogie du lien entre union et procréation. Vous faites bien sûr référence à la contraception naturellement. Vous écrivez « Le lien entre union et procréation est au cœur du mystère conjugal. » C'est ça, vous nous l'avez rappelé. Son altération par la contraception conjugale, fragilise la relation en diminuant l'émerveillement et l'empathie. Oui. En quoi la contraception va-t-elle fragiliser la relation en diminuant l'émerveillement et l'empathie?
Oui.
Parce que c'est un argument qui est recevable de quelqu'un qui n'est pas chrétien.
Tout à fait.
Vous utilisez la contraception, vous prenez le risque de diminuer l'émerveillement et l'empathie de votre, qui caractérise votre relation jusqu'ici. Ça.
Premièrement, je vous propose qu'on se centre sur l'empathie. Parce que je vais mieux savoir vous le montrer.
Bon.
C'est-à-dire que nous avons reçu un couple. C'est l'homme qui a demandé à son épouse de bien vouloir venir nous voir pour quitter le stérilet, car il n'arrivait plus à aimer sa femme. Sa femme était toute puissante à la maison, toute bienveillante. C'était, vous savez, la mère courage. Elle faisait tout à la maison. Elle faisait tout, tout était réglé comme il faut. On a les courses qu'il faut pour manger, les enfants sont bien vêtus, le scoutisme est bien géré, tout est bien géré, et la sexualité, nos problèmes non plus. Sous-entendu, il n'y aura pas de petits, quand tu as besoin, tu viens, et c'est d'accord. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait plus de vulnérabilité. Et il est venu, il a demandé à sa femme, est-ce que tu accepterais que pour la sexualité, nous laissions revenir la vulnérabilité.
La vulnérabilité, c'est le risque ?
La vulnérabilité, c'est le fait d'être vulnérable, qu'on peut nuire. On peut nuire. On peut, donc, on accepte une fragilité. Et il y a une vulnérabilité, en effet. Il y a beaucoup de vulnérabilités qui sont proposées dans le cycle féminin. Il y a déjà le cycle féminin lui-même. Je peux en parler, je suis tellement enthousiaste que c'est que le cycle féminin, pour accueillir son cycle, il faut accueillir la vulnérabilité. C'est-à-dire que dans le cycle féminin, lorsque la femme accepte son cycle, déjà, commençons par les règles. Les règles sont une grande et belle chose parce que c'est le signe qu'on peut concevoir un enfant, mais ça veut dire aussi qu'on doit en prendre. On doit avoir des précautions vestimentaires et puis qu'éventuellement, ben, on a mal, on est fatigué, il faut que l'entourage... Donc déjà, la vulnérabilité liée très simplement au cycle féminin. Et puis il y a la vulnérabilité qui est que quand on accueille le cycle tel qu'il est, sous-entendu, ce n'est pas nous qui réglons les temps d'union intime, c'est-à-dire de la même manière que les saisons, c'est de la même manière que dans l'année... On va se baigner quand il fait beau et on va à la neige quand il y a de la neige. On accepte cette vulnérabilité. Et bien, dans l'union intime, si on ne souhaite pas concevoir, ben on s'unit en dehors des périodes fertiles. Même si, dans le fond, on aurait bien voulu s'unir en période fertile. Donc, on accepte cette vulnérabilité. Et puis, c'est l'homme, c'est étonnant. Hein, et cette femme incroyable a accueilli ce désir parce qu'elle voulait... travailler pour l'amour de leur couple. Et cela, je crois, ça fait 7 ans. Hein, et ça fait 7 ans qu'ils ont repris ce chemin où ils vivent l'alternance des unions et des temps de continence. Mais c'est le cycle féminin qui leur dit 7 ans. Et vous voyez, donc, et ainsi, donc, ils ont accueilli cette certaine vulnérabilité.
Et l'empathie, alors ?
Eh bien, l'empathie, vous savez, l'empathie, c'est ce qui est mis en moi lorsque je vois du vulnérable. C'est, si je vois une vulnérabilité, j'ai envie de prendre soin. Ce n'est pas propre seulement à l'espèce humaine. Hein. Dans votre article sur les grands singes, on parle aussi de l'empathie. L'empathie est un don donné par la nature pour prendre soin de ce qui est vulnérable. Donc prendre soin de l'union intime, prendre soin de son conjoint, Et donc, c'est face à la vulnérabilité. S'il n'y a plus de vulnérabilité, il y a bien souvent perte du désir sexuel. C'est-à-dire que la vulnérabilité, l'amour, deux amoureux, mais aussi regardez la relation mère-enfant, l'amour jaillit de l'émerveillement et de l'empathie devant la beauté et la vulnérabilité. La beauté et la vulnérabilité, c'est les deux faces de la beauté. Regardez, vous voyez ce que je veux dire. Regardez, je peux encore parler ou bien... Oui. Eh bien, écoutez, moi, j'ai beaucoup médité, vous le sentez sur le sujet. Et donc, en fait, si vous voulez, la vulnérabilité fait partie de la beauté de notre conjoint.
Professeur Écochard, ce que vous voulez nous dire, c'est que pour qu'un amour soit durable... Il faut qu'il y ait vulnérabilité et empathie. C'est une nécessité à l'amour durable et que la contraception va peut altérer, en tout cas, il y a un risque d'altération de cette vulnérabilité et de cette empathie et qui risque d'être au détriment d'un lien affectif durable.
Tout à fait.
C'est ce que vous nous expliquez.
C'est un risque de mécaniser notre relation, de la rendre, si vous voulez, trop solide, trop mécanistique. Et du coup, si vous voulez, c'est dangereux, voyez. Regardez, moi, personnellement, j'ai beaucoup médité sur les fleurs naturelles et les fleurs en plastique. Hein. Planter des fleurs en plastique dans votre jardin, vous n'aurez plus de problème. C'est réglé, vous avez des fleurs toute l'année. Eh bien, ce n'est pas ce que les gens choisissent. Très peu de gens plantent des plantes en plastique dans leur jardin.
Ça n'a pas le même éclat, il faut le dire.
Oui, certaines sont très très belles. Mais vous les aimez, les fleurs naturelles. Vous les aimez parce qu'il faut en prendre soin, parce qu'elles sont vulnérables. C'est qu'en fait, nous aimons prendre soin. Nous aimons ce qui est vulnérable. Et ça, c'est dans notre nature humaine profonde.
Mais vous parlez de jardinage.
Oui.
En quelque sorte, professeur Écochard. Mais... Quand on aime les fleurs, quand on a un jardin, la chance d'avoir un jardin, qu'on s'en occupe, on a l'impression que les fleurs vous rendent le temps que vous avez passé à vous occuper d'elle. C'est incroyable. On a vraiment ce sentiment qu'elle vous rend en éclat et en beauté. C'est cette explication que vous nous donnez sur les conséquences et le risque de la contraception, elle est accessible aux personnes qui vous entendent et qui ne sont pas particulièrement croyantes.
Écoutez, je trouve, moi, j'ai remarqué...
Elles entendent cet argument parce que vous avez l'occasion certainement
Chaque année, j'en parle à mes étudiantes, parce qu'il y a très peu d'étudiants qui font biologie de la reproduction. C'est surtout des femmes. Eh bien, chaque année, j'ai de l'enthousiasme dans la salle. Parce que les gens sentent que c'est vrai. Ils aiment qu'on prenne soin d'eux. Ils ont du prix aux yeux de ceux qui les aiment, mais il faut accueillir leur vulnérabilité dans tout ce qu'ils ont, voyez.
Vous n'avez pas d'ennui avec ce genre de propos, professeur Écouchard? Non, ça passe bien.
Non, au contraire, c'est rigolo, vous savez, quand vous parlez de choses de cœur comme cela, quand vous parlez de choses de cœur, eh bien, au contraire, les étudiants vous fondent dessus à la fin de l'amphi, à la fin du cours, ils vous fondent dessus et vous donnent leurs expériences personnelles.
Vous parlez au cœur aussi, qui séduit, évidemment, qui attire un intérêt durable de la même manière. Nous avons une petite annonce à faire de quelques secondes et nous reprenons cette émission à l'issue.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Aux auditeurs de Radio Courtoisie, nous poursuivons cette émission avec le professeur Écochard, qui est professeur d'épidémiologie, qui est chercheur en biologie et qui a co-dirigé avec son épouse Isabelle Écochard, qui est gynécologue, hein, c'est ça?
Non, elle a accompagné des couples toute sa vie, mais pour la dimension de l'intimité conjugale, mais elle n'est pas gynéco, non.
Elle n'est pas gynéco, bon, enfin, elle aurait pu.
Elle aurait pu, oui. Elle a fait un travail de gynéco, en effet, mais...
Et le père Noriega, cette encyclopédie est remarquable, très complète, encyclopédie sur la sexualité humaine, l'amour et la fécondité, en presque 200 entrées, réalisées à la demande, en 2018, de l'Institut Pontifical Théologique Jean-Paul II, pour les sciences du mariage et de la famille, et bien apporte un très grand nombre de sujets, dont celui que vient d'évoquer le professeur Écochard, qui est le sujet de la contraception. La contraception, nous a-t-il expliqué, risque d'endommager ce lien et risque d'endommager l'empathie et l'affection entre conjoints, parce que l'un des moteurs de cette affection qui la rend durable, eh bien, c'est le désir de prendre soin par l'empathie envers la vulnérabilité de ceux dont on est proche. Et je trouve que c'est une, pardonnez-moi, professeur Écochard, c'est une belle explication parce qu'elle est compréhensible par tous et pas uniquement par les chrétiens. Ce n'est pas qu'un principe spirituel, ce que vous expliquez sur les risques présentés par la contraception. Nous avons des messages auditeurs, alors je vais vous soumettre le premier. Sans se limiter à Freud, comment votre encyclopédie se situe-t-elle par rapport à celle du professeur Lacan, j'imagine par rapport aux idées du docteur Lacan et à l'apport de cette médecin psychanalyste que fut Madame Dolto. Nous souhaitons, nous dit cet auditeur, que vous ne vous situez pas au niveau de généralité, mais que vous pénétriez dans l'exposé de ces deux psychanalystes célèbres. Voilà.
Là, je crois que je vais demander le joker parce que je ne suis pas compétent. Je suis navré. Oui, je ne suis pas compétent en fait sur ce sujet. Je prie l'auditeur de m'en excuser.
Alors, un auditeur qui vous remercie pour vos propos, qui le trouve passionnant, et il précise que la création a été faussée par le péché originel. Comme l'a dit le pape Paul VI, le mal n'est pas seulement une déficience, mais un être vivant spirituel perverti et pervertisseur. Là, on revient dans la spiritualité.
Oui. Enfin, le fait de ne pas accueillir la création, dans le fond, comme un don.
Professeur Ecochard, je vous propose de poursuivre parce qu'il nous reste un peu plus de 20 minutes à passer en votre compagnie, mais peut-être accepteriez-vous de revenir aussi, parce que commenter un certain nombre d'articles de cette encyclopédie, et puis aussi vous avez une très très grande connaissance pour tout ce qui touche, bien entendu, on l'a vu, aux neurosciences, et puis aussi à la procréation artificielle. C'est un de vos domaines, la fécondité, les problèmes de la fécondité. Les auditeurs de Radio Courtoisie l'ont bien compris en vous écoutant, je vous propose d'aborder la deuxième entrée que vous avez sélectionnée, qui est l'entrée fécondation artificielle. Et vous commencez cette entrée en précisant que le 25 juillet 1978, nous assistons à la naissance du premier enfant issu d'une fécondation in vitro. Alors concernant la fécondation artificielle, vous rappelez dans cette entrée le principe moral énoncé dans l'encyclopédie de Paul VI, Humanae Vitae. Alors, peut-être pouvez-vous nous résumer en quelques mots le principe moral rappelé par le pape, et puis après que vous évoquiez l'historique et les principales techniques à ce jour de fécondation artificielle, et aussi l'évaluation morale que vous en faites. Et je pense particulièrement, que diriez-vous au couple, justement, qui ont des problèmes de fertilité? C'est un vrai sujet, ils sont nombreux autour vraiment de nous.
Merci Thierry. Donc, en fait, ce que dit Humanae Vitae, c'est donc simplement qu'il est bon de maintenir le lien entre union et procréation.
Ce que vous nous avez rappelé.
Voilà. Mmh. Et quand il s'agit de concevoir, de procréation, c'est que cette procréation naisse de l'union. C'est-à-dire que nous naissions, sous-entendu en parlant simplement, que nous soyons conçus sous la couette, pas dans un tube. C'est ça la clé. C'est qu'il est bon que nous naissions de l'union intime de nos parents. Et le texte fondateur, c'est Donum Vitae, qui avait été écrit par le cardinal Ratzinger, Benoît XVI. Donum Vitae, c'est à lui qu'avait confié, Jean-Paul II avait confié d'écrire ce texte, parce qu'il était très technique. Et donc, c'est son service qui l'a écrit. Et donc, Donum Vitae explique, en somme, ce que je vous résume, en « il est bon que nous naissions par l'union intime de nos parents ». Car nous sommes donnés. Nous sommes donnés, nous ne sommes pas fabriqués, de fait. Vous voyez, moi, j'ai le bonheur d'être un enfant non prévu, vous savez. Mes parents avaient prévu 3 enfants et j'ai la joie d'être le 4e. Je suis un enfant non prévu. Je suis né de l'union intime, du désir de mes parents. Sous-entendu, il est bon que chacun de nous naisse du désir intime et charnel de nos parents. En effet, nous sommes un don. Et comme disait Jean-Paul II, nous sommes un don qui jaillit d'un don. Vous connaissez peut-être cette expression. Hommes et femmes se donnent dans l'union intime et chacun de nous est né d'un don. Nous ne sommes pas fabriqués. Sous-entendu, si nous étions fabriqués, sans doute, on aurait voulu qu'on soit un peu différent. Je ne sais pas si... Bien souvent, nous avons, une fois que nous avons un enfant qui est né de nous, un enfant qui est né de notre union intime, maintenant, on va tout faire pour lui, mais on l'accueille comme il est. Sous-entendu, vraiment, c'est le mystère. Nous sommes nés d'un mystère quand même. C'est pourquoi moi, j'ai ce tempérament, pourquoi, c'est ainsi, j'ai été accueilli par mes parents, nous sommes accueillis par nos parents, même si des fois c'est difficile parce qu'ils avaient déjà une maison pleine. Mais toujours est-il qu'à partir du moment où nous sommes là, nous sommes accueillis comme un don. Donc chacun de nous étant un don et un mystère, il est bon que nous ne soyons pas fabriqués. Vous voyez, donc je crois qu'il y a un point assez central du fait que nous devons naître conçus sous la couette. Et il est nécessaire que nous ne soyons pas fabriqués, vous voyez. Ça, c'est très important. Nous ne sommes pas fabriqués car il y a un mystère en nous. C'est chacun de nous est différent. Chacun de nous naît avec des forces et avec des fragilités. Et alors que si nous étions fabriqués, nous serions comme des Legos, toutes les pièces identiques. Non, nous sommes uniques, nous sommes uniques, nés d'un mystère. C'est nous, avec un mélange unique de certaines caractéristiques reçues de notre Père, certaines caractéristiques de notre Mère, et la responsabilité de l'enfant vient du fait que c'est nous, Père et Mère, qui l'avons conçu dans notre amour. Alors que lorsqu'on est fabriqué, la responsabilité vient à l'usine. Il y a des problèmes très graves, de risques, de problèmes graves, lorsque on confie à une tierce personne, à un organisme, de fabriquer des enfants. Donc, Donum Vitae explique les dimensions fondamentales, c'est-à-dire que, voyez, le fait d'être conçu sous la couette, que ce soit le don charnel, sous-entendu tel que la création l'a fait. Voyez, donc, si nous n'étions pas aussi importants, les êtres humains, on pourrait inventer une nouvelle manière de nous fabriquer, si j'ose dire. Mais non, il n'est pas bon, explique Donum Vitae. Il est bon de laisser l'enfant jaillir de l'union intime des parents.
Ça, là encore, c'est le point de vue, effectivement, spirituel, le point de vue religieux.
Oui. Mais, enfin, écologique, je dirais, voyez.
Que diriez-vous à des personnes qui ne sont pas croyantes en la matière face à des couples qui sont infertiles, justement ?
Alors, justement, déjà là, c'est pour cela que dès 1970, des médecins se sont mis à travailler pour aider la conception des couples stériles dans beaucoup d'endroits, en Australie, aux États-Unis, en Europe, c'était à Rome surtout. Des équipes de chercheurs se sont mis à travailler pour lutter contre la stérilité. Mais lutter contre la stérilité, tout en maintenant l'union intime comme lieu de conception. C'est-à-dire, ils ont, donc c'est de la médecine et de la chirurgie qui restaure. Vous voyez, Thierry, c'est ce qu'on appelle la restauration de la fertilité. En effet, l'infertilité ne peut pas être voulue par Dieu. L'infertilité ne peut pas être voulue par Dieu. Mais par contre, nous pouvons travailler pour restaurer la fertilité, vous voyez. Et donc, c'est donc cette restauration de la fertilité qui est décrite dans l'encyclopédie par plusieurs auteurs, il y a plusieurs rubriques, comme qu'est-ce qu'on sait restaurer ? On ne sait pas tout restaurer, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas tout réparer, mais chaque année qui passe, on arrive mieux à restaurer la fertilité.
Dans cette entrée, hein, fécondation artificielle, il y a toute une évaluation morale que vous proposez de la fécondation artificielle. Pouvez-vous nous en parler ? Parce que vous commencez par dire la fécondation artificielle, a une finalité très positive.
Oui.
Et pourtant, l'Église condamne.
Oui,
c'est-à-dire... Peut-on nous en parler, nous dire oui. Quelques mots sur les possibilités actuelles et pourquoi, au regard de l'Église, c'est condamnable.
C'est-à-dire, permettre la naissance d'un enfant ne peut être que bon. Tout enfant est aimé de Dieu. Si vous me questionnez sur le plan du spirituel, personnellement, je vous propose de donner quelques éléments. Abraham, Sarah et Agar. Abraham et Sarah ne parvenaient pas à concevoir. Abraham conçoit avec Agar. Dieu prend soin des enfants d'Agar, car tout homme est aimé de Dieu. Mais, il dit à Abraham, c'est de Sarah que tu concevras, car c'est dans l'alliance que doit naître la filiation. C'est dans l'alliance que doit naître la filiation. Donc, voyez, Dieu aime tout enfant, qu'il naisse de PMA ou qu'il naisse de naprotechnologie. Tout enfant est aimé de Dieu de la même manière. Et si j'ose dire, dans la Bible, on voit qu'il prend presque plus soin des enfants d'Agar que de Sarah. Mais ce n'est pas parce que Dieu aime tout enfant que Dieu n'a pas un dessein, c'est que la filiation naisse dans l'alliance, que l'enfant naisse de l'union intime des conjoints.
Professeur Écouchard, je rappelle que aux auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir de vous recevoir pour cette encyclopédie que vous avez co-dirigée avec le père Noriega, votre épouse Isabelle Écouchard, qui est aussi comme vous, médecin. Vous avez mis au point cette somme, une véritable somme qui à la fois présente le point de vue de l'Église et d'autre part l'avancée de toutes les études scientifiques sur tous ces sujets de sexualité humaine, d'amour et de fécondité, que cette somme a été publiée. Originellement, c'était la demande, le souhait de l'Institut Pontifical Théologique Jean-Paul II pour les sciences du mariage et de la famille. Et nous évoquons là plus particulièrement l'entrée sur la fécondation artificielle. Professeur Écouchard, prenons un exemple, si vous le voulez bien. Un couple infertile, vous évoquez d'ailleurs dans cette entrée tous les travaux de restauration de la fertilité qui sont avancés dans de nombreux domaines. Vous indiquez par exemple qu'il y a de plus en plus de preuves de l'existence de liens entre la diminution de la fécondité et les indicateurs négatifs d'autres dimensions de la santé humaine. Imaginons un couple qui fait appel à vous, qui vous suit sur tous vos conseils en matière de restauration de la fertilité, ça ne marche pas, il lui reste la fécondation artificielle.
Oui, c'est ça. C'était, en fait, si vous voulez...
Que faire par rapport à ce désir qui est vraiment un désir tout à fait...
Très grand.
Normal.
Très légitime.
Voilà. Oui. Que conseillez-vous ? Que dites-vous alors, à ce type de couple par rapport à la fécondation artificielle ?
Je crois qu'il est bon d'abord que je dise que si... ce couple a vraiment un problème d'hypofécondité, je ne l'accompagnerai pas moi-même. Je l'enverrai chez des spécialistes, chez les médecins de naprotechnologie. Nous avons le bonheur en France d'en avoir un certain nombre. Et donc, ça, c'est très important. C'est que c'est une science. La restauration de la fertilité est une science. Elle est chirurgicale et médicale. Donc, le couple, on ne l'abandonnera pas. Vous savez, c'est assez clair. Qu'on aille à l'hôpital... en PMA ou bien en naprotechnologie, dans les deux cas, un couple sur trois concevra. Pour trois couples qui souffrent d'infertilité, un seul concevra, que ce soit en PMA ou en restauration de la fertilité, en naprotechnologie. C'est important de le savoir. Donc, chaque fois que nous accueillons trois couples, que ce soit donc en PMA ou en restauration de la fertilité, deux n'auront pas le bonheur d'avoir un bébé qui naîtra de leur couple. Et un aura ce bonheur. Donc déjà, ça c'est très important. C'est-à-dire, oui, c'est un drame la stérilité, mais comme vous le dites, que ce soit en PMA ou en restauration de la fertilité, deux couples sur trois parmi ceux qui souffrent de stérilité n'auront pas d'enfants. Et ça, c'est une réalité qui soit, donc, c'est une réalité actuelle pour tous. Ce n'est pas spécifique de la restauration de la fertilité. C'est quand même important, ça. Et lorsqu'on accompagne des couples dans ce parcours, eh bien, il est très important de tenir compte que seulement un des trois partira avec un petit enfant. C'est-à-dire, donc, d'accompagner cette famille pour qu'elle ne se structure pas. Cette famille, qui est pour l'instant un couple, mais qui n'a pas encore d'enfant, ne se structure pas uniquement sur le fait d'avoir un petit enfant qui naîtrait de leur union, parce que deux n'en auront pas sur trois. Et donc ça, c'est très important. Que l'enfant ne soit pas un objet, seulement un objet de désir. Que toutes leurs autres fécondités se préparent. Sous-entendu, vous le savez bien, c'est très très douloureux, mais ce n'est pas les seules fécondités du couple et il est nécessaire. Et dans le fond, vous voyez, pour les parents, les couples qui réussissent à avoir un petit enfant, c'est important aussi que leur enfant ne soit pas simplement un objet de leur amour, et bien qu'il l'accueille, voyez. Donc en somme, vous voyez, c'est un changement important pour nous tous, que nous puissions avoir un enfant ou pas, de quitter cette attitude d'avoir un enfant seulement pour soi. Et il s'agit bien de se mettre en mesure d'accompagner la vie. Je pense à un couple précis. Ils n'ont pas conçu d'enfant. Ils ont tout fait, mais ils n'ont pas conçu d'enfant. Mais ils ont une fécondité extraordinaire. D'abord, ce sont des oncles et tantes hors pair. Il y a toujours, on fait appel à eux, que ce soit donc leurs frères et sœurs ou des voisins. C'est la maison est pleine tout le temps. Hein, c'est leur manière de faire. Mais ils ont aussi d'autres fécondités qu'ils n'auraient pas s'ils avaient à s'occuper de leurs enfants. Donc, la fécondité ne se limite pas à la fertilité. On est bien obligé de l'accueillir, car c'est une pure vérité. Notre fécondité ne se limite pas à notre fertilité.
Alors, professeur Écochard, il y a des nombreuses questions d'auditeurs. J'aimerais vous les poser avant la fin de l'émission, mais j'aimerais quand même vous poser une dernière question sur l'évaluation morale de la fécondité artificielle. Telle que vous l'abordez dans ses entrées, parce que vous la condamnez. Vous condamnez.
René Écochard qui condamne.
Oui, non, mais c'est René Écochard en tant que co-dirigeant de cette superbe somme encyclopédique.
C'est une réflexion
sur la sexualité humaine et l'amour.
Mais parce que c'est important. Mais quand même, Thierry, c'est très important ça. C'est-à-dire que les questions de sexualité ne sont pas des questions de permis et de défendu. Les questions de sexualité, c'est de méditer quel est le dessein de Dieu et d'essayer de vivre pour dire oui Seigneur, et on sait tous que c'est difficile, de dire oui Seigneur sur plein de dimensions de notre vie, pas que sur la fécondité. Et donc il faut absolument, ça fait partie des éléments de ce livre, il y a très peu de permis défendus dans ce livre, parce que justement nous devons quitter, il est bon que nous quittions cette dynamique de la contraception est interdite, la PMA est interdite, et que nous allions donc vers l'adhésion au dessein de Dieu.
Pour la contraception, vous nous avez expliqué effectivement les risques que ça présentait dans le lien entre les conjoints.
Oui.
À la fois d'une manière sur le cadre religieux, mais aussi quand vous adressez à des personnes qui ne sont pas particulièrement croyantes, vous avez parfaitement expliqué qu'il y avait un risque de diminuer en quelque sorte le lien affectif. Vous avez expliqué pourquoi.
Tout à fait.
Qu'en est-il de la fécondation artificielle ? Et notamment pour les personnes qui ne sont pas particulièrement croyantes et qui ne vont pas faire référence aux dogmes de l'Église catholique. Comment leur expliquez-vous vos critiques, les critiques de l'Église plutôt, pas les vôtres, vous l'avez rappelé, en matière de fécondation artificielle ? Vous mettez en avant toutes les possibilités de la restauration de la fertilité, avec de grandes avancées, de grands progrès en la matière, mais qu'en est-il de la fécondation artificielle ? Et puis il faut qu'on se garde 3-4 minutes pour répondre à des messages importants de l'éditeur.
Thierry, vous voyez, je pense que c'est important, l'idée qu'il est bon qu'un être humain ne soit pas le produit d'une fabrication. Il est bon qu'un être humain ne soit pas le produit d'une fabrication. C'est-à-dire ça, et toute PMA est quelque part, avec même beaucoup d'attention, de délicatesse par les soignants, a quelque part une part de production. Et l'être humain, il est bon qu'il ne soit pas le lieu d'une fabrication. Et dès qu'on quitte l'origine dans l'union intime, il y a risque d'une fabrication de l'enfant. Et ça pose de graves problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, bien entendu, un grand nombre d'enfants qui sont nés de PMA sont des êtres merveilleux, très aimés de leurs parents. Cela ne fait aucun doute. Mais disons que penser à ce que vous disiez au début sur les drames actuels, sur la sexualité, sur la compréhension, vous comprenez, et le transhumanisme. On parle beaucoup de ce transhumanisme. Eh bien, la PMA, c'est du transhumanisme. C'est-à-dire que c'est faire naître à tout prix, alors même qu'un petit enfant ne serait pas né. Donc, c'est une sorte de précaution humaine qui est proposée. Ça ne peut pas être du permis défendu. C'est proposé.
Il y a aussi le problème des embryons.
Bien entendu, après, on décrit dans le livre.
On en parlait dans le livre, c'est pour ça que je souligne, en effet.
Bien sûr, il y a tous les inconvénients dans une phase de fabrication, entre guillemets. Eh bien, il y a des déchets. Il y a des déchets. C'est-à-dire, il y a toujours... Mais ce qui est important, évidemment, c'est que fait une humanité d'enfants dans des congélateurs, c'est sûr. Mais disons que, voyez, je propose par respect pour les couples qui souffrent, il est très important de surtout centrer sur le fait que la fécondité dépasse la fertilité et que, oui, ils ont une grande souffrance, mais nous avons des grandes souffrances dans notre vie, nous avons des handicaps et il faut que nous en fassions des opportunités d'entraide et de solidarité.
Alors, professeur Écochard, il nous reste malheureusement que 3 minutes, 4 minutes. On va négocier dur avec Stéphane, qui est à la technique là. Nous avons des messages d'auditeurs, je vous en lis quelques-uns d'ailleurs. Alors, un auditeur, ce que vous proposez, monsieur le professeur, c'est sur la première entrée, hein, sur la contraception, c'est la méthode Ogino. Grâce à elle, ma mère, dit-elle, a eu 9 enfants non désirés. Quant à moi, j'ai 77 ans, Dieu merci, il y a eu la pilule parce que j'étais parti pour en faire autant, j'en ai eu 4 quand je l'ai voulu et ça n'a pas empêché mon couple de vivre. Bien au contraire, ça nous a évité la misère que j'avais connue dans mon enfance.
Non mais c'est tout à fait respectable. Hein. Moi, j'ai dit que moi-même, je suis un enfant non désiré. Hein. Mes parents avaient
prévu... Ça ne se voit pas, professeur.
Trois chambres, mes parents avaient prévu 3 chambres et j'ai partagé une des chambres parce que j'étais le 4e. Mais nous avons eu 4 enfants parce que les méthodes naturelles ne sont pas, je pense que l'auditrice le sait, les méthodes naturelles ne sont pas la méthode Ogino. Les méthodes naturelles sont maintenant extrêmement fiables. Et on peut s'y fier vraiment à
vous
condition
abordez,
de se former. Voilà, oui. Mais on comprend qu'il y a une génération qui a beaucoup souffert, de ces enfants qu'on ne savait pas de régulation de naissance efficace.
C'est aussi l'intérêt de cette encyclopédie sur la sexualité humaine, l'amour et la fécondité, c'est que vous faites le point de toutes les recherches
scientifiques
et de toutes ces avancées qui sont extrêmement importantes dans la matière.
Il y a 8 méthodes présentées par les gens.
Donc, j'encourage notre chère auditrice. Voilà. Merci pour son message. J'encourage à se plonger dans votre encyclopédie. En effet, fort heureusement, il y a eu quand même un certain nombre d'avancées et de découvertes.
Maintenant, on a même des bandelettes de dosages hormonaux. On a tout ce qu'on veut.
Professeur, il faut poursuivre les messages. Alors, une auditrice. Chaque couple a sa perception de l'amour. Pour les uns, c'est le risque qui fait le sel de la vie. Pour d'autres, c'est la sécurité. Le problème, c'est quand on veut imposer aux autres sa conception personnelle des choses, de surcroît. Être un enfant non désiré, il y a plus enviable pour débuter dans la vie. Vous avez évoqué ça, professeur.
Moi, j'ai eu le bonheur que ça ne m'ait pas blessé, personnellement. Au contraire, quand ma grand-mère m'a annoncé ça, elle a souri et elle m'a toujours dit « Tu n'as pas été désiré, mais tu as été aimé ». Et je pense que c'est vrai.
Et puis là encore, pour en revenir aux avancées scientifiques, vous l'avez évoqué au début de cette émission, c'est l'allaitement qui crée l'affection.
Bien sûr.
Incroyable. Oui. Donc peut-être pas désir au début, mais à vous écouter, on a l'impression qu'on devient vite aimé très rapidement par justement... tout a été prévu en la matière.
Je pense.
Reste juste une minute, professeur Écochard. Je rappelle le livre, cette somme pour laquelle nous recevons encyclopédie sur la sexualité humaine et l'amour et la fécondité, aux éditions Pierre Tecky. Encore une question avec une réponse rapide, s'il vous plaît, professeur. Votre invité qui veut ne pas dissocier amour et procréation semble oublier que les couples infertiles existent, soit après la ménopause, soit en raison d'un problème physiologique, et s'il sort du cadre occidental récent, il verra que les mariages arrangés font souvent des couples qui ne s'aiment guère, où seul le devoir conjugal s'impose. Songez à certains passages dans les textes musulmans, par exemple, et pourtant, ce sont souvent les cultures où les familles sont les plus nombreuses, et ce n'est pas là le moindre des paradoxes. D'ailleurs, dans cette vision idéale, votre invité ne confond-il pas amour et désir charnel ? Voilà. Réponse rapide.
Moi, je pense que le texte est suffisant pour qu'on le respecte tel qu'il est. Le point de vue est intéressant. Vous avez compris que j'espère que en proposant de garder l'union et la procréation, ce n'est pas des lois nouvelles et des éthiques qu'on impose aux gens, c'est d'accueillir le dessein de Dieu.
Merci beaucoup, professeur René Écochard, d'être venu jusqu'à nous. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon retour et j'espère que vous reviendrez pour nous commenter d'autres entrées de cette très complète somme, l'encyclopédie sur la sexualité humaine, l'amour et la fécondité aux éditions Pierre Tecky. Merci à vous, professeur.
Merci Thierry.